Catherine Janisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée PS du Pas-de-Calais, vice-présidente du Conseil régional. Alors une première question pour vous, peut-être d'abord en tant que secrétaire de la Fédération PS du Pas-de-Calais, c'est à propos des primaires socialistes. Alors quel regard vous portez sur ce processus de désignation du candidat PS au présidentiel jusqu'à maintenant ?
La fédération du Pas-de-Calais a beaucoup discuté de l'intérêt de ces primaires. La fédération du Pas-de-Calais est une fédération forte de beaucoup de militants. Et pour les militants, la désignation de leur candidat à une élection, quelle qu'elle soit, mais particulièrement à l'élection présidentielle, est un grand moment pour eux. Et je ne vous cache pas que certains militants se sont un peu sentis dépossédés de ce pouvoir de choix de leur candidat socialiste. Pour autant, aujourd'hui, les primaires sont lancées. Elles sont lancées avec enthousiasme dans le Pas-de-Calais. Elles ont été difficiles à mettre en place compte tenu du nombre de communes dans le Pas-de-Calais, puisque nous sommes 895 communes, 750 communes de moins de 2000 habitants. Et dès lors, ça a demandé un travail de titan que d'organiser le maillage des bureaux de vote. Mais les militants ont fait cela avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination. Et aujourd'hui, les primaires sont lancées et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'elles aient un maximum de succès.
Vous parlez d'un sentiment de dépossession, ça correspond à quoi, de quoi vous parlez en fait ?
Pour les militants, si vous voulez, pour les militants bon, qui servent le parti à longueur d'année, en faisant des campagnes, en distribuant des tracts, en collant des affiches, en participant au débat, si vous voulez, pour eux, élire leur candidat, que ce soit d'ailleurs pour l'élection présidentielle comme pour d'autres modes d'élection, c'est un petit peu la récompense du travail militant, si vous voulez. Et de se dire que bon, c'est plus eux seuls qui ont cette possibilité, ça a pu faire se poser des questions à un moment. Ces questions sont derrière nous aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est la préparation des primaires avec beaucoup d'enthousiasme, et je suis fière d'ailleurs de l'engagement des militants dans le Pas-de-Calais, parce que je pense que nous aurons de belles primaires dans le Pas-de-Calais.
Vous nous parlez de l'organisation de ces primaires, mais au niveau du débat, des idées, pas simple d'organiser ces débats, parce qu'il faut aussi donner une image, une certaine cohésion.
Ça, je pense que ça ne pose pas de problème, si vous voulez. Nous avons reçu François Hollande il y a une dizaine de jours dans la Fédération du Pas-de-Calais. Nous allons recevoir Martine Aubry, je pense, également, dans une dizaine de jours. Je crois que notre parti, le Parti Socialiste, peut s'enorgueillir de la richesse et de l'importance de talents tels que Martine Aubry, François Hollande, mais aussi les autres candidats, Ségolène Royal, Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Et nous sommes heureux d'avoir été rejoints par Jean-Michel Baillet, le président du Parti radical de gauche. Je pense que cette richesse de personnalité au sein de notre parti est un atout, j'allais dire, de la vitalité intellectuelle et idéologique de notre parti. Alors après qu'il y ait des débats sur le fond, à partir d'un projet dont je rappelle qu'il a été d'ailleurs voté à l'unanimité des militants, qu'il y ait un débat sur le fond, sur les priorités que chacune ou chacun des candidats souhaitera mettre en avant, qu'il y ait des propositions nouvelles que l'un ou l'autre souhaitera également mettre en avant, c'est une chose. Que le débat politique existe, mais que ce soit un débat respectueux des personnes, respectueux des personnalités, mais je n'ai pas de doute sur le sujet, et je suis persuadée que les primaires seront un petit peu que le Parti Socialiste sera gagnant dans les primaires et que le débat politique sera gagnant dans les primaires.
Alors vous, à titre personnel, vous soutenez la candidature de Martine Aubry ?
Oui, je soutiens la candidature de Martine Aubry, parce que Martine Aubry, je la connaissais, mais assez peu. J'ai appris à la connaître à partir de 1997, et j'allais dire, nous nous sommes côtoyés très fréquemment, puisque elle était ministre, enfin numéro 2 du gouvernement Lionel Jospin, ministre de l'Emploi, de la Solidarité, de la Santé. En ce qui me concerne, j'appartenais, et j'appartiens toujours d'ailleurs à la commission des affaires sociales, et j'ai travaillé à côté d'elle, avec d'autres amis parlementaires, sur les grandes lois qu'elle a comment dire, portées, comme la loi sur les emplois jeunes, les deux lois sur les 35 heures, la loi sur la couverture maladie universelle. Et si vous voulez, j'ai apprécié cette femme d'action, cette femme de conviction, cette femme qui travaille, cette femme engagée à gauche et cette femme qui, même quand elle s'adressait aux députés à l'époque de l'opposition, hein, aux députés UMP, enfin à l'époque c'était RPR puis UMP de l'opposition, elle était, je pense, détestée idéologiquement, mais respectée en tant que femme parce que c'est quelqu'un qui a toujours fait valoir ses convictions et défendu ses convictions. Pour moi, Martine Aubry, si vous voulez, c'est une femme d'action, c'est une femme de conviction. C'est aussi, parmi les candidats, quelqu'un qui, certes, prend en compte, j'allais dire, l'instantané de cette crise si grave qui nous frappe, qu'elle soit financière, enfin, cette crise financière qui est la cause, finalement, de cette crise économique, sociale et politique. Mais c'est aussi quelqu'un qui a cette volonté d'être architecte de la vie politique et de prévoir l'avenir politique. Donc, si vous voulez, pour moi, mon choix s'est porté sur Martine Aubry en reconnaissant la très grande valeur et la très grande qualité des autres candidats, en particulier celle de François Hollande. Ce qui me semble important, si vous voulez, ce qui est enfin, la très grande responsabilité des socialistes dans leur globalité et des candidats en particulier, c'est de se respecter humainement et par là, enfin, et par là respecter les citoyens et de faire en sorte que le 17 le matin, nous soyons derrière, tous derrière la candidate, le candidat que les citoyens auront choisi.
Toujours à l'écoute de Radio PFM dans ce magazine Info 30. Aujourd'hui, entretien avec Catherine Génisson.
On va parler, si vous voulez bien, d'autres échéances électorales, plus près dans le temps, puisqu'elles ont lieu ce dimanche, mais bien plus éloignées des citoyens lambda français. Hein, sont les élections sénatoriales. Et donc, vous êtes seconde sur la liste du PS dans le Pas-de-Calais. Alors, députée, conseillère régionale, probablement dimanche, donc sénatrice, pourquoi ce choix de se présenter? Et puis, est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup de mandats pour une seule personne?
Alors, d'abord, je vais répondre à la dernière question. Il est bien évident que dès lors que je serai élue sénatrice, je ne suis plus députée. Et qu'aujourd'hui, la loi autorise à exercer deux mandats. Donc, j'exercerai ce mandat de sénatrice et le mandat de conseillère régionale. Nous verrons à l'automne prochain comment nous, les socialistes, nous réagissons par rapport au sujet du cumul des mandats, qui est un sujet qui est au centre de notre réflexion politique quand nous parlons de rénovation. Donc, je ne serai pas plus cumularde que les autres dans le cadre de ce qu'autorise la loi aujourd'hui. Ce que je voulais dire, pourquoi finalement j'ai choisi de candidater comment dire, à la fonction de sénateur après celle de député que j'exerce avec énormément de plaisir, non pas parce que la circonscription dans laquelle je suis élue a été découpée, non pas parce que l'élection directe m'interroge, puisque j'ai toujours eu un immense plaisir à rencontrer directement nos concitoyens, non seulement lors des élections, lors d'une campagne électorale, mais je pense tout au long de l'exercice de mon mandat, mais parce que, si vous voulez, à ce point-ci de mon parcours politique, il m'a semblé important de travailler, certes, sur des sujets pour lesquels nos concitoyens ne se sentent pas concernés au premier chef, mais qui pourtant organisent le quotidien de leur vie et organisent leur avenir, c'est-à-dire les collectivités locales, les collectivités territoriales. Si vous voulez, quand on voit la vie de chacun, au niveau d'une ville, tous les jours, à toute heure de la journée, on fait appel à des services de la ville, multiples et variés, que ce soit l'entretien des écoles, que ce soit la prise en compte de la petite enfance, que ce soit la prise en compte des personnes âgées, la ville est présente. Il en est de même pour le conseil général et il en est de même pour le conseil régional. Le conseil général ayant cette très forte vocation, ce très grand volet social, et le conseil régional est en plus un aménageur du territoire et un acteur du développement économique. Au-delà d'ailleurs de compétences que se sont données ces deux institutions en matière de culture, en matière de social, d'activité sociale et en matière de soutien à l'accompagnement en sport aux activités touristiques. Donc, si vous voulez, ce trépied collectivité, les communes, intercommunalité d'un côté, conseil général, conseil régional de l'autre, me semble fondamentalement à soutenir et à défendre. Quand nous voyons que l'État a quand même, enfin, les gouvernements successifs, et en particulier depuis que le président de la République est Nicolas Sarkozy, a extrêmement recentralisé la décision politique et tout en, contraignant le fonctionnement des collectivités territoriales, que ce soit avec la loi sur les collectivités territoriales ou que ce soit avec la suppression de la taxe professionnelle, qui était un impôt qui permettait en particulier aux intercommunalités et aux conseils régionaux de pouvoir élaborer des projet et un impôt dont on ne sait toujours pas comment il sera remplacé de façon pérenne. Donc il y a quand même une attaque en règle des collectivités territoriales aujourd'hui. Il y a également une attaque en règle des services publics sur l'ensemble du territoire. Il y a eu la Poste, on en a beaucoup parlé. Il y a aujourd'hui l'école, on en parle beaucoup aujourd'hui avec cette rentrée scolaire. Et puis il y a ces collectivités locales, le Conseil général, le Conseil régional, qui sont montrés du doigt comme étant les dépensiers de la France, ce qui fait quand même sourire quand on voit le déficit abyssal qui existe au niveau du budget de l'État, et quand on sait par ailleurs que ce sont ces collectivités territoriales qui participent à hauteur de 75% du développement économique de notre pays. Il m'a semblé, si vous voulez, à ce niveau de mon parcours politique, que ce sujet, même s'il n'est pas directement grand public et il n'est pas directement approprié par les citoyens, est en fait un sujet extrêmement prioritaire pour nos concitoyens. Cela ne m'empêchera pas, bien évidemment, de continuer à travailler sur les grands sujets sur lesquels j'ai travaillé, l'emploi, la solidarité, le sujet de la santé, bien évidemment, et le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Donc pour vous, ces enjeux de services publics, de collectivités territoriales, c'est au niveau du Sénat que ça va se jouer ?
Le Sénat est la chambre qui représente les collectivités territoriales. D'ailleurs, son mode d'élection le prouve, et c'est vraiment la chambre des collectivités territoriales. Preuve en est d'ailleurs que la dernière réforme sur les collectivités territoriales a failli ne pas être votée au Sénat, parce que les sénateurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, à un moment donné, y compris ceux de droite, ont bien compris que la réforme que le gouvernement voulait appliquer était une mauvaise réforme, et pour beaucoup d'entre eux, ils ont eu des remontées très négatives de leur territoire, et d'ailleurs, rappelons que cette réforme est quand même passée à 2-3 voix près au Sénat. Donc oui, le Sénat, c'est la chambre des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale, c'est la chambre du rapport politique, et le Sénat, c'est la chambre représentative des collectivités territoriales, ce qui n'exclut pas, bien évidemment, que ça passe aussi par le rapport politique. Mais c'est vraiment là où sont représentés, finalement, ce qu'on appelle les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont tout simplement les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux.
Que va devenir votre siège de député, hein, que vous occupez ? Donc, il sera laissé vacant, occupé par votre suppléant ou...
Alors, si vous voulez, quand il y a une élection, quand il y a un départ du député à moins d'un an d'une élection, il n'y a pas réélection. Et enfin, malgré un certain nombre d'amendements qui avaient été prévus à un moment, mais qui ont été abandonnés. Les deux cas où le député suppléant remplace le député, c'est quand celui-ci décède ou quand il est nommé Premier ministre. J'espère ne rentrer dans aucune des deux conditions d'ici 2012. Oui, le siège de député restera vacant, mais en ce qui me concerne, bien évidemment, je ne vais pas, j'allais dire, entre guillemets, abandonner les citoyens de l'actuelle deuxième circonscription, et je continuerai... Sans exercer le mandat, mais sur le territoire, à être aussi présente que lorsque j'étais députée. Et d'ailleurs, le mandat de sénateur me permettra, il faut employer le futur, ou même le conditionnel encore aujourd'hui, me permettrait de pouvoir être beaucoup plus libre dans mes déplacements et dans mon positionnement sur la deuxième circonscription, comme sur l'ensemble des circonscriptions du Pas-de-Calais, et particulièrement sur le secteur de l'Artois.
D'accord. Donc votre suppléant n'occupera pas le siège ?
Non, ça n'est pas la loi.
Dans un instant, la dernière partie de notre entretien avec Catherine Génisson, députée PS du Pas-de-Calais.
sur les élections sénatoriales. En face de vous, donc la tête de liste dans le Pas-de-Calais, c'est le maire d'Arras, Jean-Marie Von Lorenberg, qui est donc en tête d'une liste d'alliance UMP Modem. Un commentaire là-dessus ?
Un commentaire, j'ai envie de dire, c'est à lui d'expliquer le pourquoi de cette proposition qui effectivement peut surprendre, puisque j'écoutais encore le discours de François Bayrou ce dernier week-end, qui quand même fustigeait quelque part l'action gouvernementale. Jean-Marie Von Lorenberg lui-même, c'est avec courage politique d'ailleurs et avec autonomie, n'a pas voté toute une série de textes présentés par la majorité présidentielle. En particulier, il s'est abstenu d'ailleurs sur le texte sur les collectivités territoriales. Donc, faire campagne à côté de Natacha Bouchard, qui elle est par contre une militante UMP et présente sur la liste à ce titre, n'est sans doute pas évident, mais c'est pas à moi de juger. Chacun fait sa campagne, si vous voulez. Moi, j'ai toujours conçu une campagne électorale dans une relation directe avec nos concitoyens, en l'occurrence aujourd'hui avec les grands électeurs, et je préfère parler de ce que je ferai plutôt que de faire des commentaires sur ce que font ou ne font pas les autres.
Alors, on va parler un petit peu d'Arras et de sa communauté urbaine, puisque la démission de M. Cellier au conseil municipal d'Arras va engendrer de nouvelles élections communautaires, donc pour la présidence de la CUA. Et on a senti le PS local hésitant à présenter un candidat à ces élections.
Non, je pense pas qu'on puisse dire qu'on ait senti que le PS local hésitait à présenter un candidat à cette élection. On a eu, et avec beaucoup de justesse, le raisonnement du premier vice-président de la communauté urbaine, qui est en même temps le président du groupe socialiste de la communauté urbaine, indiqué qu'en fait, deux ans et demi de renouvellement des instances, que ce soit au niveau des conseils municipaux comme de la communauté urbaine d'Arras, il fallait peut-être considérer que nous étions dans une logique de gestion technique et non plus dans une interrogation politique. Compte tenu du fait que la communauté urbaine a été co-gérée pendant 4 ans, hein, par les uns et par les autres, et qu'il fallait considérer peut-être que le rendez-vous était un rendez-vous technique plus que politique. Je pense qu'il a raison à 99%. Mais en même temps, nous sommes dans un contexte politique particulier, puisque nous sommes dans la préparation de l'élection présidentielle. Nous l'avons évoqué au début de notre propos avec, en ce qui concerne les socialistes, l'organisation des primaires. Ça, c'est une chose. Nous sommes également dans un contexte où, Jean-Marie Von Lorenberg démissionne de son poste, il semble que le candidat proposé soit Philippe Rappeneau, candidat dont je ne veux pas remettre en cause la qualité de la personne, et je vais même dire qu'à titre personnel, j'ai des relations amicales avec Philippe Rappeneau, mais, et je m'en étais d'ailleurs entretenue avec lui, il est le secrétaire départemental de l'UMP, et il est le président du groupe d'opposition de Daniel Percheron au Conseil régional. Et je lui disais que si la situation était inverse, lui-même ne comprendrait pas que nous ne présentions pas un candidat face à lui. Donc, si vous voulez, après un débat de très grande qualité au sein du groupe socialiste, de la communauté urbaine, il a été décidé, bien évidemment, de présenter un candidat socialiste face à la candidature qui sera présentée si Jean-Marie Van Lerenberg démissionne. Je crois que c'est le contexte politique est complètement évident à prendre en compte. Et je dois dire d'ailleurs, ce contexte politique est d'autant plus évident à prendre en compte qu'il faut que nos concitoyens aient une vue claire de la situation politique. Il n'est pas question qu'on soit dans le combat politique, nous sommes dans le débat politique et nous ne devons pas céder aux sirènes d'une voisine qui existe aujourd'hui au Conseil régional, qui est la patronne du Front National et qui utilise à souhait le slogan UMPS. Je pense, si vous voulez, que pour nos concitoyens, et je crois que l'affluence des téléspectateurs qui ont écouté le débat sur les primaires s'intéresse à la politique, contrairement à ce que l'on pense, mais il faut aussi que nous leur donnions des messages clairs.
En vous présentant au sénatorial, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que vous renoncez, que vous renoncerez à vous présenter au municipal à Arras? Et quelle est la stratégie du PS à Arras pour reprendre Arras? Est-ce qu'il y a une stratégie du PS pour reprendre Arras?
J'ai envie de dire que rien ne préjuge de rien. Si vous voulez, moi, je ne manipule pas mes fonctions politiques, entre guillemets, à crédit, si vous voulez. Là, je suis candidate pour les élections sénatoriales, pour assumer à la fois au Sénat et sur le territoire mon mandat de sénatrice. Je participerai, en ce qui me concerne, à la logique de reconquête de la ville d'Arras par les socialistes et plus globalement par la gauche. Après, ce n'est pas seul que je déciderai de tout cela. Cela se passera avec les militants de la section d'Arras, mais aussi les militants socialistes de la communauté urbaine. Et cela se passera aussi avec les élus socialistes et les élus de gauche de la communauté urbaine.
Alors, dernière question, Catherine Génisson. Vous êtes chargée de la culture au sein du Conseil régional et donc vous faites partie des tutelles institutionnelles et soutiens financiers du Théâtre d'Arras. Alors, on voit une situation trouble et troublée au Théâtre d'Arras. Quelle est la situation exactement là-bas?
Alors, si vous voulez, ce n'est pas une solution trouble ou troublée, c'est une solution que je qualifierais de délicate. Je ne vais pas sortir de mes prérogatives également de ma fonction de vice-présidente du Conseil régional chargé de la culture, ni de membre du Conseil d'administration, puisque c'est au Conseil d'administration de s'exprimer sur le sujet du Théâtre d'Arras. Ce que je peux dire, c'est que le Théâtre d'Arras a un directeur dont les qualités artistiques ont fait leur preuve, dont les qualités également d'animateur culturel ont fait leur preuve, mais avec lequel, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a de grosses difficultés budgétaires dans le cadre du financement du Théâtre d'Arras. Et le conseil d'administration devra statuer sur les suites à donner quant à l'avenir du Théâtre d'Arras, dont je peux garantir qu'il n'est pas mis en cause, puisque l'ensemble des tutelles souhaitent continuer de soutenir le Théâtre d'Arras. Et je veux à ce titre, rassurer le personnel du Théâtre d'Arras. Mais il y aura des décisions à prendre pour ce Théâtre d'Arras, mais cela relève de la compétence du conseil d'administration, dans lequel le conseil régional est représenté, mais je ne peux pas m'exprimer sur le sujet uniquement à titre personnel.
On parle d'un déficit de 100 000 euros, même beaucoup plus.
Je crois que l'on peut dire que le déficit est au moins de 100 000 euros.
C'était un entretien avec Catherine Génisson, députée PS du Pas-de-Calais, vice-présidente du Conseil régional et donc très probablement ce dimanche sénatrice. Une interview réalisée hier matin.